Bonjour.
Alors tout à l'heure, dernière conférence du Grand Débat avec les corps intermédiaires, à commencer par la CFDT. Vous avez apporté un programme avec 66 propositions, plus une alliance avec Nicolas Hulot. Alors Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont-ils plus attentifs aujourd'hui à ce que vous dites ?
D'abord, ce pacte, il est avec 19 organisations syndicales, associatives.
Ça vous donne encore plus de poids, donc ils sont plus attentifs.
En tout cas, dans les conférences qui se sont déroulées lundi, je ne sais pas s'ils sont plus attentifs, mais on a bien vu que ça avait du poids de porter ensemble des propositions constructives, c'est-à-dire cette démarche, elle se veut constructive et pas oppositionnelle. Et donc, vous savez, il n'y a que ceux qui feront des propositions qui ont des chances d'être entendus. Et c'est ce que nous avons voulu faire.
Comment vous vous êtes retrouvé d'ailleurs avec Nicolas Hulot ? Qui a fait le premier pas ?
Non, on s'est retrouvé avec la Fondation Nicolas Hulot, avec la France Nature Environnement, avec la Mutualité. Ça fait depuis 2015, les attentats de Charlie Hebdo, que nous avons créé un collectif qui s'appelait les Places de la République pour travailler ensemble. Et régulièrement, nous intervenions ensemble. Et là, nous avons décidé de le faire face à l'urgence écologique, à l'urgence sociale.
Laurent Berger, vous demandez à ce que vos 66 propositions soient examinées à part ou vous acceptez qu'elles soient noyées dans l'océan des 1,5 million de contributions au Grand Débat ?
Mais ça fait partie de notre contribution au Grand Débat. On ne demande pas de statut particulier, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte que 19 organisations ont fait ce choix de faire des compromis entre elles pour faire des propositions constructives qui sont assez complètes. On souhaite maintenant qu'elles soient mises sur la table, mais il peut y en avoir d'autres. Il n'y a aucune exclusive de demander de notre part, mais il faut écouter ce qu'on a voulu dire. Ce qu'on présente, nous, c'est une vision d'un projet, d'une société qui allie son urgence écologique, son nécessité écologique avec le besoin de réduction des inégalités.
Vous proposez par exemple un retour de la taxe carbone. Plusieurs ministres y étaient d'ailleurs favorables, mais Emmanuel Macron a dit non. Du coup, le débat est clos ?
Non, le débat sera jamais clos sur la taxe carbone si on veut lutter contre le réchauffement climatique. Le débat sera jamais clos sur la fiscalité écologique et sur la nécessité d'avoir une fiscalité qui à la fois oriente les comportements des citoyens, des entreprises, des collectivités et en même temps redistribue pour aider ces changements de modèle.
Mais en même temps, Emmanuel Macron ne l'entend pas. Pour l'instant, il n'en veut pas, donc c'est clos.
Oui, non, c'est pas clos. Ce sera pas clos si on veut s'inscrire vraiment dans la transition écologique.
Pareil pour la création d'une nouvelle tranche d'imposition pour les plus riches. Certains membres de La République En Marche y étaient pourtant favorables. Mais Bruno Le Maire, ici même, a dit non. Ça veut dire que ce débat aussi est clos ?
Il ne peut pas être clos. Vous savez, parmi non les plus, choses qui hein. se sont exprimées, et on le voit bien dans les débats, y compris que ceux que nous avons organisés à la CFDT, que la question de la répartition des richesses, que d'une fiscalité plus juste, elle est au cœur des problématiques qui ont été soulevées et qui sont soulevées par les citoyens.
Et donc, le gouvernement a pas l'air ouvert à cette idée. Hein.
Oui, mais il faudra y répondre parce qu'on a bien vu que ça a créé un point de crispation très très fort. Cette histoire de l'ISF versus des efforts demandés aux plus fragiles, eh bien, il faut qu'on puisse y répondre différemment. Et pour ça, il faut avoir un effort fiscal plus important des plus hauts revenus, notamment des revenus du capital. Donc, c'est des questions qui sont encore sur la table.
Édouard Philippe, Laurent Berger, Édouard Philippe a déjà prévenu que les Français risquaient d'être déçus par le résultat du Grand Débat. Ça prouve qu'on a un Premier ministre honnête et lucide ?
Je ne doute pas qu'il soit honnête.
Il sait qu'il n'a pas les moyens de financer les revendications des Français.
Hier, il y avait au comité économique et social et environnemental un avis qui a été rendu très, très bon sur les propositions du CESE à partir d'un panel citoyen. Et le Premier ministre a réagi, je l'ai senti ouvert. Ouvert à des champs du possible en termes de compromis sur un certain nombre de questions.
Maintenant, ouvert, mais il sait qu'il n'a pas les moyens de financer toutes les revendications des Français. C'est un problème de moyens financiers.
Il n'y a pas que des questions de moyens. Il y a une question de mise en mouvement. Et ce que nous dit, c'est les périodes que nous venons de traverser, c'est qu'il y a une volonté des Français d'être écoutés et il y a une volonté des Français qu'on leur dise à peu près vers où on veut aller.
Et vous êtes confiant.
Et là, je suis optimiste parce que je suis syndicaliste, donc je suis bien obligé de l'être. Je crois qu'on peut se sortir du Grand Débat en fixant un horizon de là où on veut emmener notre pays, vers un pays plus juste et qui s'inscrit véritablement, au sein de l'Union Européenne évidemment, mais véritablement dans la transition écologique. Et là, ouais, je dis juste au gouvernement, vous avez en face de vous des organisations qui ont fait des propositions, qui se veulent constructives et pas oppositionnelles comme on a pu l'entendre. Constructives, eh bien, faites avec.
Alors, Laurent Berger, vous reprochez à Emmanuel Macron de vouloir tout décider, mais quand il confie aux partenaires sociaux la réforme de l'assurance chômage, vous êtes incapable de vous mettre d'accord avec le patronat.
On est dans un drôle de système tout de même, où chaque jour, dans le pays, on dit « corps intermédiaires, démocratie territoriale, démocratie sociale, laissez-nous faire. Et quand on donne la main, on dit, bon monsieur, c'est dur, reprenez-la.
Et donc, il faut qu'Emmanuel Macron tranche.
Oui, mais je me suis déjà exprimé sur cette expression que je trouve malheureuse et pas juste.
Pourquoi pas juste ?
Pas juste parce que l'assurance chômage, il y a eu une décision du gouvernement de transférer la cotisation des salariés vers de la CSG. C'était le premier coin à un système paritaire. Le deuxième, c'est qu'il y a eu une lettre de cadrage qui a été inscrite dans la loi, qui était extrêmement serrée, extrêmement difficile.
Donc c'est la faute du gouvernement.
Qui était faite en septembre, cette lettre de cadrage, elle demandait 3 milliards d'économies et elle était faite pour, grosso modo, qu'on n'y arrive pas. Et puis il y a eu la crise des Gilets jaunes et tout le monde aurait aimé qu'on y arrive, mais c'était pas le coup était parti. On n'a pas réussi. Dont acte, il n'a pas totalement tort sur le fait que ça interroge les organisations syndicales et patronales. Là-dessus, moi, je prends ma part. Mais il a sa part. Et donc maintenant, ce qu'il faut, c'est... Moi, ce qui m'intéresse, vous savez, c'est que sur l'assurance chômage, on a un système d'indemnisation qui ne tape pas les plus fragiles. Et je crains que ce que prépare le gouvernement, c'est de taper les salariés les plus précaires et qui bénéficient du régime d'assurance chômage parce qu'ils subissent malheureusement la précarité.
Concernant les retraites et la difficile réforme des régimes spéciaux, la mise en place d'un régime universel voulu par Emmanuel Macron implique de remettre à plat les avantages accordés à certaines catégories. Vous y êtes prêt ? Le gouvernement n'est pas si loin que ça de vous ?
Mais l'universalité, c'est pas l'uniformité. Ça veut dire qu'on peut avoir une base de calcul de la retraite de chacun qui soit commune, mais avoir des spécificités. Il existe des spécificités aujourd'hui quand on a un métier pénible, par exemple. On a mis en place ce compte pénibilité qui a été tant décrié.
Et quand on donne l'exemple des conducteurs de la SNCF qui partent à la retraite à 52 ans.
Eh ben, ça me fait marrer, je vous le dis franchement, parce que s'ils partent à 52 ans, ils ont une retraite minime. Et donc, il n'y en a pas beaucoup qui le font. C'est ça qu'il faut dire, c'est qu'au bout d'un moment, on vit avec des schémas, des représentations, ça permet d'avoir quelques coupables qu'on désigne au peuple, mais c'est faux, en fait.
Donc, le gouvernement, vous n'êtes pas si éloigné que ça
non, dans l'idée, c'est nous, c'est pas de mettre fin à des spécificités professionnelles, c'est de regarder comment on les fait évoluer dans le cadre d'un régime universel.
Laurent Berger, la CFDT n'a pas la réputation de faire grève à tout prix. Est-ce que vous soutenez la grève pour le climat prévue vendredi et l'action de samedi?
Oui, moi je me réjouis que les jeunes se mobilisent sur la question climatique, c'est une vraie question de sens, d'humanité, donc je trouve ça très bien qu'il y ait une réaction de la jeunesse, et samedi je serai dans la rue pour la marche pour le climat, la CFDT appelle, parce que c'est un enjeu social, économique, mais surtout d'humanité.
Et Jean-Michel Blanquer a une bonne idée de proposer, d'organiser des débats sur le climat dans les lycées.
À chaque fois qu'on propose de faire appel au débat avec les jeunes, à l'intelligence collective, c'est plutôt une bonne idée. Les conditions de mise en œuvre, c'est à voir dans chaque établissement, je sais pas si ça marche comme ça, juste sur une injonction, mais peu importe. En tout cas, c'est plutôt une bonne idée. Le SGEN CFDT, qui est nos représentants dans l'éducation nationale, avait proposé d'ouvrir des espaces de débat sur la question climatique auprès des jeunes, donc c'est plutôt une bonne chose.
Merci Laurent Berger.
C'était l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara.